Le lendemain, avant de partir, M. Grosse-Tête promit à Véronique de s'associer à ses plans, dès que leur réalisation serait jugée possible. Madame Grasselin et Gérard accompagnèrent à cheval sa voiture, et ne le quittèrent qu'à la jonction de la route de Montaignac et de celle de Bordeaux à Lyon. L'ingénieur était si impatient de reconnaître le terrain, et Véronique si furieuse de le lui montrer, qu'ils avaient tous deux projeté cette partie la veille. Après avoir fait leurs adieux au bon vieillard, ils se lancèrent dans la vaste plaine et côtoyèrent le pied de la chaîne des montagnes, depuis la rampe qui menait au château jusqu'au pic de la Roche-Vive. L'ingénieur reconnut alors l'existence du banc continu signalé par Farabèche et qui formait comme une dernière assise de fondation sous les collines. Ainsi, en dirigeant les eaux de manière qu'elles n'engorgeassent plus le canal indestructible que la nature avait fait elle-même et le débarrassant des terres qui l'avaient comblé, l'irrigation serait facilitée par cette longue gouttière élevée d'environ 10 pieds au-dessus de la plaine. La première opération, et la seule décisive, était d'évaluer la quantité d'eau qui s'écoulait par le gabou et de s'assurer si les flancs de cette vallée ne la laisseraient pas échapper. Véronique donna un cheval à Farabèche qui devait accompagner l'ingénieur et lui faire part de ses moindres observations. Après quelques jours d'études, Gérard trouva la base des deux chaînes parallèles assez solide, quoique de composition différente, pour retenir les eaux. Pendant le mois de janvier de l'année suivante, qui fut pluvieux, il évalua la quantité d'eau qui passait par le gabou. Cette quantité, jointe à l'eau de 3 sources qui pouvaient être conduites dans le torrent, produisait une masse suffisante à l'arrosement d'un territoire 3 fois plus considérable que la plaine de Montaignac. Le barrage du gabou, les travaux et les ouvrages nécessaires pour diriger les eaux par les 3 vallons dans la plaine ne devaient pas coûter plus de 60 000 francs, car l'ingénieur découvrit sur les communaux une masse calcaire qui fournirait de la chaux à bon marché. La forêt était proche, la pierre et le bois ne coûtaient rien et n'exigeaient point de transport. En attendant la saison pendant laquelle le gabou serait à sec, seul temps propice à ses travaux, les approvisionnements nécessaires et les préparatifs pouvaient se faire de manière à ce que cette importante construction s'élevât rapidement. Mais la préparation de la plaine coûterait moins, selon Gérard, de 200 000 francs, sans y comprendre ni l'ensemencement ni les plantations. La plaine devait être divisée en compartiments carrés, de 250 arpents chacun, où le terrain devait être non pas défriché, mais débarrassé de ses plus gros cailloux. Des terrassiers auraient à creuser un grand nombre de fossés et à les empierrer afin de ne pas laisser se perdre l'eau et la faire courir ou monter à volonté. Cette entreprise voulait les bras actifs et dévoués de travailleurs consciencieux. Le hasard donnait un terrain sans obstacle, une plaine unie. Les eaux, qui offraient 10 pieds de chute, pouvaient être distribuées à souhait. Rien n'empêchait d'obtenir les plus beaux résultats agricoles en offrant aux yeux ces magnifiques tapis de verdure, l'orgueil et la fortune de la Lombardie. Gérard fit venir du pays où il avait exercé ses fonctions un vieux conducteur expérimenté, nommé Fresquin. Madame Grasselin écrivit donc à Grosse-Tête de lui négocier un emprunt de 250 000 francs, garanti par ses inscriptions de rente, qui, abandonné pendant 6 ans, suffirait, d'après le calcul de Gérard, à payer les intérêts et le capital. Cet emprunt fut conclu dans le courant du mois de mars. Les projets de Gérard, aidés par Fresquin, son conducteur, furent alors entièrement terminés, ainsi que les nivellements, les sondages. les observations et les devis. La nouvelle de cette vaste entreprise, répandue dans toute la contrée, avait stimulé la population pauvre. L'infatigable Farabèche, Colora, Clouzier, le maire de Montaignac, Roubaud, tous ceux qui s'intéressaient au pays, ou à Madame Grasselin, choisirent des travailleurs, ou signalèrent les indigents qui méritaient d'être occupés. Gérard acheta pour son compte, et pour celui de Monsieur Grosstête, un millier d'arpents de l'autre côté de la route de Montaignac. Fresquin, le conducteur, prit aussi 500 arpents et fit venir à Montaignac sa femme et ses enfants. Dans les premiers jours du mois d'avril 1833, M. Grosstête vint voir les terrains achetés par Gérard. Mais son voyage à Montaignac fut principalement déterminé par l'arrivée de Catherine Curieux, que Mme Grasselin attendait, et venue de Paris par la diligence à Limoges. Il trouva Mme Grasselin prête à partir pour l'église. M. Bonnet devait dire une messe pour appeler les bénédictions du ciel sur les travaux qui allaient s'ouvrir. Tous les travailleurs, les femmes, les enfants y assistaient. « Voici votre protégé, » dit le vieillard en présentant à Véronique une femme d'environ 30 ans, souffrante et faible. « Vous êtes Catherine Curieux ?» lui dit Madame Grasselin. « Oui, madame. » Véronique regarda Catherine pendant un moment. Assez grande, bien faite et blanche, cette fille avait des traits d'une excessive douceur et que ne démentait pas la belle nuance grise de ses yeux. Le tour du visage, la coupe du front, offrait une noblesse à la fois auguste et simple, qui se rencontre parfois dans la campagne chez les très jeunes filles, espèce de fleur de beauté que les travaux des champs, les soins continus du ménage, le hâle, le manque de soins enlèvent avec une effrayante rapidité. Son attitude annonçait cette aisance dans les mouvements qui caractérise les filles de la campagne, et à laquelle les habitudes involontairement prises à Paris avaient encore donné de la grâce, restée dans la Corrèze. Certes, Catherine eût été déjà ridée, flétrie. Ses couleurs, autrefois vives, seraient devenues fortes. Mais Paris, en la pâlissant, lui avait conservé sa beauté. La maladie, les fatigues, les chagrins, l'avaient douée des dons mystérieux de la mélancolie, de cette pensée intime qui manque aux pauvres campagnards, habitués à une vie presque animale. Sa toilette, pleine de ce goût parisien que toutes les femmes, même les moins coquettes, contractent si promptement, la distinguait encore des paysannes. Dans l'ignorance où elle était de son sort, et incapable de juger Madame Grasselin, elle se montrait assez honteuse. « Aimez-vous toujours Farabèche ?» lui demanda Véronique, que Grosstête avait laissée seule un instant. « Oui, madame, » répondit-elle en rougissant. « Pourquoi, si vous lui avez envoyé 1000 francs pendant le temps qu'a duré sa peine, n'êtes-vous pas venu le retrouver à sa sortie ? Y a-t-il chez vous une répugnance pour lui ? Parlez-moi comme à votre mère. Aviez-vous peur qu'il ne fût tout à fait vicié, qu'il ne voulût plus de vous ? Non, madame, mais je ne savais ni lire ni écrire. Je servais une vieille dame très exigeante. Elle est tombée malade. On la veillait. J'ai dû la garder. Tout en calculant que le moment de la libération de Jacques approchait, je ne pouvais quitter Paris qu'après la mort de cette dame, qui ne m'a rien laissé, malgré mon dévouement à ses intérêts et à sa personne. Avant de revenir, j'ai voulu me guérir d'une maladie causée par l'éveil. et par le mal que je me suis donné. Après avoir mangé mes économies, j'ai dû me résoudre à entrer à l'hôpital Saint-Louis, d'où je sors guéri. « Bien, mon enfant, » dit Madame Grasselin, émue de cette explication si simple. « Mais dites-moi maintenant, pourquoi vous avez abandonné vos parents brusquement? Pourquoi vous avez laissé votre enfant? Pourquoi vous n'avez pas donné de vos nouvelles? Ou fait écrire ?» Pour toute réponse, Catherine pleura. « Madame, » dit-elle, rassurée par un serrement de main de Véronique, « je ne sais si j'ai eu tort, mais il a été au-dessus de mes forces de rester dans le pays. Je n'ai pas douté de moi, mais des autres. J'ai eu peur des bavardages, des caquets. Tant que Jacques courait ici des dangers, je lui étais nécessaire. Mais lui parti, je me suis senti sans force. Être fille avec un enfant et pas de mari. La plus mauvaise créature aurait valu mieux que moi. Je ne sais pas ce que je serais devenu si j'avais entendu dire le moindre mot sur Benjamin ou sur son père. Je me serais fait périr moi-même. Je serais devenu folle. Mon père ou ma mère, dans un moment de colère, pouvait me faire un reproche. Je suis trop vive pour supporter une querelle ou une injure. Moi qui suis douce, j'ai bien été punie, puisque je n'ai pu voir mon enfant. Moi, qui n'ai pas été un seul jour sans penser à lui. J'ai voulu être oubliée, et je l'ai été. Personne n'a pensé à moi. On m'a cru morte. Et cependant, j'ai bien des fois voulu tout quitter pour venir passer un jour ici, voir mon petit. Votre petit? Tenez, mon enfant, voyez-le. Catherine aperçut Benjamin et fut prise comme d'un frisson de fièvre. « Benjamin, » dit Madame Grasselin, « viens embrasser ta mère. »« Ma mère ?» s'écria Benjamin surpris. Il sauta au cou de Catherine, qui le serra sur elle avec une force sauvage. Mais l'enfant lui échappa, et se sauva en criant, « Je vais le quérir !» Madame Grasselin, obligée d'asseoir Catherine qui défaillait, aperçut alors Monsieur Bonnet, et ne put s'empêcher de rougir en recevant de son confesseur un regard perçant qui lisait dans son cœur. « J'espère, monsieur le curé, lui dit-elle en tremblant, que vous ferez promptement le mariage de Catherine et de Farabèche. Ne reconnaissez-vous pas Monsieur Bonnet, mon enfant ? Il vous dira que Farabèche, depuis son retour, s'est conduite en honnête homme. Il a l'estime de tout le pays. Et s'il est au monde un endroit où vous puissiez vivre heureux et considéré, c'est à Montaignac. Vous y ferez, Dieu aidant, votre fortune, car vous serez mes fermiers. Farabèche est redevenu citoyen. Tout cela est vrai, mon enfant, dit le curé. En ce moment, Farabèche arriva, traîné par son fils. Il resta pâle et sans parole, en présence de Catherine et de Madame Grasselin. Il devinait combien la bienfaisance de l'une avait été active, et tout ce que l'autre avait dû souffrir pour n'être pas venu. Véronique emmena le curé, qui, de son côté, voulait l'emmener. Dès qu'ils se trouvèrent assez loin pour n'être pas entendus, M. Bonnet regarda fixement sa pénitente et la vit rougissant. Elle baissa les yeux comme une coupable. « Vous dégradez le bien, » lui dit-il sévèrement. « Et comment ? » répondit-elle en relevant la tête. « Faire le bien, reprit M. Bonnet, est une passion aussi supérieure à l'amour que l'humanité, madame, est supérieure à la créature. Or, tout ceci ne s'accomplit pas par la seule force et avec la naïveté de la vertu. Vous retombez de toute la grandeur de l'humanité au culte d'une seule créature. Votre bienfaisance envers Farabèche et Catherine comporte des souvenirs et des arrière-pensées qui en ôtent le mérite aux yeux de Dieu. Arrachez-vous-même de votre cœur les restes du javelot qui a planté l'esprit du mal. Ne dépouillez pas ainsi vos actions de leur valeur. Arriverez-vous donc enfin à cette sainte ignorance du bien que vous faites et qui est la grâce suprême des actions humaines. Madame Graslin s'était retournée afin d'essuyer ses yeux, dont les larmes disaient au curé que sa parole attaquait quelque endroit saignant du cœur, où son doigt fouillait une plaie mal fermée. Farabèche, Catherine et Benjamin vinrent pour remercier leur bienfaitrice, mais elle leur fit signe de s'éloigner et de la laisser avec M. Bonnet. « Voyez comme je les chagrine !» dit-elle en les lui montrant attristés. Et le curé, dont l'âme était tendre, leur fit alors signe de revenir. « Soyez, leur dit-elle, complètement heureux. Voici l'ordonnance qui vous rend tous vos droits de citoyen et vous exempte des formalités qui vous humiliaient. » ajouta-t-elle en tendant à Farabèche un papier qu'elle gardait à sa main. Farabèche baisa respectueusement la main de Véronique et la regarda d'un œil à la fois tendre et soumis, calme et dévoué que rien ne devait altérer, comme celui du chien fidèle pour son maître. « Si Jacques a souffert, madame, dit Catherine, dont les beaux yeux souriaient, j'espère pouvoir lui rendre autant de bonheur qu'il a eu de peine. Car, quoi qu'il ait fait, il n'est pas méchant. » Madame Graslin détourna la tête. Elle paraissait brisée par l'aspect de cette famille, alors heureuse. Et Monsieur Bonnet la quitta pour aller à l'église, où elle se traîna sur le bras de Monsieur Grosse-Tête. Après le déjeuner, tous allèrent assister à l'ouverture des travaux, que vinrent voir aussi tous les vieux de Montaignac. De la rampe sur laquelle montait l'avenue du château, M. Grosse-Tête et M. Bonnet, entre lesquels était Véronique, purent apercevoir la disposition des quatre premiers chemins que l'on ouvrit et qui servirent de dépôt aux pierres ramassées. Cinq terrassiers rejetaient les bonnes terres au bord des champs, en déblayant un espace de 18 pieds, la largeur de chaque chemin. De chaque côté, 4 hommes, occupés à creuser le fossé, en mettaient aussi la bonne terre sur le champ, en forme de berge. Derrière eux, à mesure que cette berge avançait, 2 hommes y pratiquaient des trous et y plantaient des arbres. Dans chaque pièce, 30 indigents valides, 20 femmes et 40 filles ou enfants, en tout 90 personnes, ramassaient les pierres que des ouvriers mettraient le long des berges, afin de constater la quantité produite par chaque groupe. Ainsi, tous les travaux marchaient de front et allaient rapidement, avec des ouvriers choisis et pleins d'ardeur. Grosse-Tête promit à Madame Graslin de lui envoyer des arbres et d'en demander pour elle à ses amis. Évidemment, les pépinières du château ne suffiraient pas à de si nombreuses plantations. Vers la fin de la journée, qui devait se terminer par un grand dîner au château, Farabèche pria Madame Graslin de lui accorder un moment d'audience. « Madame, lui dit-il en se présentant avec Catherine, vous avez eu la bonté de me promettre la ferme du château. En m'accordant une pareille faveur, Votre intention est de me donner une occasion de fortune. Mais Catherine a, sur notre avenir, des idées que je viens vous soumettre. Si je fais fortune, il y aura des jaloux. Un mot est bientôt dit. Je puis avoir des désagréments. Je les craindrai. Et d'ailleurs, Catherine sera toujours inquiète. Enfin, le voisinage du monde ne nous convient pas. Je viens donc vous demander simplement de nous donner à ferme les terres situées au débouché du Gabou, sur les communaux, avec une partie de bois, au revers de la roche juive. Vous aurez là, vers juillet, beaucoup d'ouvriers. Il sera donc alors facile de bâtir une ferme dans une situation favorable, sur une éminence. Nous y serons heureux. Je ferai venir Guépin. Mon pauvre libéré travaillera comme un cheval. Je le marierai peut-être. Mon garçon n'est pas un fainéant. Personne ne viendra nous regarder dans le blanc des yeux. Nous coloniserons ce coin de terre. Et je mettrai mon ambition en vous y faire une fameuse ferme. D'ailleurs, j'ai à vous proposer pour fermier de votre grande ferme un cousin de Catherine qui a de la fortune et qui sera plus capable que moi de conduire une machine aussi considérable que cette ferme-là. S'il plaît à Dieu que votre entreprise réussisse, vous aurez dans 5 ans d'ici entre 5 à 6 000 bêtes à cornes ou chevaux sur la plaine qu'on défriche, et il faudra certes une forte tête pour s'y reconnaître. » Madame Grasselin accorda la demande de Farabèche, en rendant justice au bon sens qui la lui dictait. Depuis l'ouverture des travaux de la plaine, la vie de Madame Grasselin prit la régularité d'une vie de campagne. Le matin, elle allait entendre la messe. Elle prenait soin de son fils, qu'elle idolâtrait, et venait voir ses travailleurs. Après son dîner, elle recevait ses amis de Montaignac dans son petit salon, situé au premier étage du pavillon de l'horloge. Elle apprit à Roubaud, à Clouzier et au curé le whist que savait Gérard. Après la partie, vers 9 heures, chacun rentrait chez soi. Cette vie douce eut pour seul événement le succès de chaque partie de la grande entreprise. Au mois de juin, le torrent du Gabou étant à sec, M. Gérard s'installa dans la maison du garde. Farabèche avait déjà fait bâtir sa ferme du Gabou. 50 maçons, revenus de Paris, réunirent les deux montagnes par une muraille de 20 pieds d'épaisseur, fondée à 12 pieds de profondeur sur un massif en béton. La muraille, d'environ 60 pieds d'élévation, allait en diminuant. Elle n'avait plus que 10 pieds à son couronnement. Gérard y adossa, du côté de la vallée, un talus en béton, de 12 pieds à sa base. Du côté des communaux, un talus semblable, recouvert de quelques pieds de terre végétale, appuya ce formidable ouvrage que les eaux ne pouvaient renverser. L'ingénieur ménagea, en cas de pluie trop abondante, un déversoir à hauteur convenable. La maçonnerie fut poussée dans chaque montagne jusqu'au tuf ou jusqu'au granit, afin que l'eau ne trouvât aucune issue par les côtés. Ce barrage fut terminé vers le milieu du mois d'août. En même temps, Gérard prépara 3 canaux dans les 3 principaux vallons, et aucun de ses ouvrages n'atteignit au chiffre de ses devis. Ainsi, la ferme du château put être achevée. Les travaux d'irrigation dans la plaine, conduits par Fresquin, correspondaient au canal tracé par la nature au bas de la chaîne des montagnes, du côté de la plaine, et d'où partirent les rigoles d'arrosement. Des vannes furent adaptées aux fossés que l'abondance des cailloux avait permis d'empierrer, afin de tenir dans la plaine les eaux à des niveaux convenables. Tous les dimanches après la messe, Véronique, l'ingénieur, le curé, le médecin, le maire descendaient par le parc et allaient y voir le mouvement des eaux. L'hiver de 1833 à 1834 fut très pluvieux. L'eau des trois sources qui avait été dirigée vers le torrent et l'eau des pluies convertirent la vallée du Gabou en trois étangs, étagés avec prévoyance afin de créer une réserve pour les grandes sécheresses. Aux endroits où la vallée s'élargissait, Gérard avait profité de quelques monticules pour en faire des îles qui furent plantées en arbres variés. Cette vaste opération changea complètement le paysage. Mais il fallait 5 ou 6 années pour qu'il eût sa vraie physionomie. Le pays était tout nu, disait Farabèche. Et madame vient de l'habiller. Depuis ces grands changements, Véronique fut appelée madame dans toute la contrée. Quand les pluies cessèrent, au mois de juin 1834, on essaya les irrigations dans la partie de prairies ensemencées, dont la jeune verdure ainsi nourrie offrit des qualités supérieures des marchiti de l'Italie et des prairies suisses. Le système d'arrosement, modelé sur celui des fermes de la Lombardie, mouillait également le terrain, dont la surface était unie comme un tapis. Le nitre des neiges, en dissolution dans ces eaux, contribua sans doute beaucoup à la qualité de l'herbe. L'ingénieur espéra trouver dans les produits quelque analogie avec ceux de la Suisse, pour qui cette substance est, comme on le sait, une source intarissable de richesse. Les plantations sur les bords des chemins, suffisamment humectées par l'eau qu'on laissa dans les fossés, firent de rapides progrès. Aussi, en 1838, 5 ans après l'entreprise de Madame Grasselin à Montaignac, la plaine inculte, jugée infertile par 20 générations, était-elle verte, productive et entièrement plantée. Gérard y avait bâti 5 fermes de 1000 arpents chacune, sans compter le grand établissement du château. La ferme de Gérard, celle de Grosses Têtes et de Fresquin, qui recevait le trop-plein des eaux des domaines de Madame Grasselin, furent élevées sur le même plan et régies par les mêmes méthodes. Gérard se construisit un charmant pavillon dans sa propriété. Quand tout fut terminé, les habitants de Montaignac, sur la proposition du maire enchanté de donner sa démission, nommèrent Gérard maire de la commune. En 1840, le départ du premier troupeau de bœufs envoyé par Montaignac sur les marchés de Paris fut l'objet d'une fête champêtre. Les fermes de la plaine élevaient de gros bétail et des chevaux, car on avait généralement trouvé, par le nettoyage du terrain, 7 pouces de terre végétale, que la dépouille annuelle des arbres, les engrais apportés par le pacage des bestiaux, et surtout l'eau de neige contenue dans le bassin du Gabou, devait enrichir constamment. Cette année, Madame Grasselin jugea nécessaire de donner un précepteur à son fils, qui avait 11 ans. Elle ne voulait pas s'en séparer, et voulait néanmoins en faire un homme instruit. Monsieur Bonnet écrivit au séminaire. Madame Grasselin, de son côté, dit quelques mots de son désir et de ses embarras à Monseigneur Dutheil, nommé récemment archevêque. Ce fut une grande et sérieuse affaire que le choix d'un homme qui devait vivre pendant au moins 9 ans au château. Gérard s'était déjà offert à montrer les mathématiques à son ami Francis. Mais il était impossible de remplacer un précepteur. Et ce choix à faire épouvantait d'autant plus Madame Grasselin qu'elle sentait chanceler sa santé. Plus les prospérités de son cher Montaignac croissaient, plus elle redoublait les austérités secrètes de sa vie. Monseigneur Dutheil, avec qui elle correspondait toujours, lui trouva l'homme qu'elle souhaitait. Il envoya de son diocèse un jeune professeur de 25 ans, nommé Ruffin, un esprit qui avait pour vocation l'enseignement particulier. Ses connaissances étaient vastes. Il avait une âme d'une excessive sensibilité, qui n'excluait pas la sévérité nécessaire à qui veut conduire un enfant. Chez lui, la piété ne nuisait en rien à la science. Enfin, il était patient et d'un extérieur agréable. C'est un vrai cadeau que je vous fais, ma chère fille, écrivit le prélat. Ce jeune homme est digne de faire l'éducation d'un prince. Aussi comptai-je que vous saurez lui assurer un sort, car il sera le père spirituel de votre fils. Monsieur Ruffin plut si fort aux fidèles amis de Madame Grasselin que son arrivée ne dérangea rien aux différentes intimités qui se groupaient autour de cette idole, dont les heures et les moments étaient pris par chacun avec une sorte de jalousie. L'année 1843 vit la prospérité de Montaignac s'accroître au-delà de toutes les espérances. La ferme du Gabou rivalisait avec les fermes de la plaine, et celle du château donnait l'exemple de toutes les améliorations. Les 5 autres fermes, dont le loyer progressif devait atteindre la somme de 30 000 francs pour chacune, à la 12e année du bail, donnaient alors en tout 60 000 francs de revenus. Les fermiers, qui commençaient à recueillir le fruit de leurs sacrifices et de ceux de Madame Grasselin, pouvaient alors amender les prairies de la plaine, où venaient des herbes de première qualité qui ne craignaient jamais la sécheresse. La ferme du Gabou paya joyeusement un premier fermage de 4 000 francs. Pendant cette année, un homme de Montaignac établit une diligence, allant du chef-lieu d'arrondissement à Limoges, et qui partait tous les jours et de Limoges et du chef-lieu. Le neveu de M. Clouzier vendit son greffe et obtint la création d'une étude de notaire en sa faveur. L'administration nomma Fresquin, percepteur du canton. Le nouveau notaire se bâtit une jolie maison dans le Haut-Montaignac, planta des mûriers dans les terrains qui en dépendaient, et fut l'adjoint de Gérard. L'ingénieur, enhardi par tant de succès, conçut un projet de nature à rendre colossale la fortune de Madame Grasselin, qui rentra cette année dans la possession des rentes engagées pour solder son emprunt. Il voulait canaliser la petite rivière en y jetant les eaux surabondantes du Gabou. Ce canal, qui devait gagner la Vienne, permettrait d'exploiter les 20 000 arpents de l'immense forêt de Montaignac, admirablement entretenue par Colorat, et qui, faute de moyens de transport, ne donnait aucun revenu. On pouvait couper 1 000 arpents par année, en aménageant à 20 ans, et diriger ainsi sur Limoges de précieux bois de construction. Tel était le projet de Grasselin, qui jadis avait peu écouté les plans du curé relativement à la plaine, et s'était beaucoup plus préoccupé de la canalisation de la petite rivière.